Vous écoutez RTL.
RTL.
À 150 mètres, tournez à gauche sur le avenue des Champs-Élysées.
Jusqu'à 22h.
Les Champs-Élysées à Paris, c'est la plus belle avenue du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
La plus belle avenue du monde.
Le marché de Noël de la plus belle avenue du monde.
L'atmosphère s'est vite réchauffée sur la plus belle avenue du monde.
Sidonie Bonnec.
Champs-Élysées.
Thomas Hugues.
Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Qui n'a pas repris un jour cette formule consacrée ? On vous raconte son histoire, comment elle a été créée d'une certaine façon il y a 4 siècles et comment elle est devenue l'un des symboles de Paris avec l'éditeur et auteur Jean-Paul Caracalla. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Si vous nous présentiez la mariée, tiens, pour commencer, quelles sont les mensurations de l'avenue des Champs-Élysées ?
Alors, elle mesure 1,9 km et quelques, et elle est large de 70 mètres.
Il y a beaucoup de visiteurs qui s'y pressent chaque jour, on peut comptabiliser ça.
Il y a 300 000 visiteurs par jour et il y a 10 millions, plus de 10 millions je crois, de par an, de gens qui l'empruntent.
Ah, ça fait énormément de monde, c'est cher d'habiter sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des gens qui vivent, tiens, dans...
Oui, il y a plusieurs personnes qui ont des appartements depuis très très longtemps et qui vivent sur les Champs-Élysées.
Mais c'est quoi le prix du mètre carré si Denis veut louer un appartement sur les Champs-Élysées?
Le mètre carré, je crois qu'il est à 10 000 euros.
Oui, c'est assez cher quand même.
D'accord, ça va pas être possible tout de suite.
Je croyais qu'il y avait surtout des bureaux, moi, sur l'avenue des Champs-Élysées.
Oui.
Oui, il y en a, mais il y a plus de bureaux, j'imagine, quand même, et de sociétés que d'habitations.
Dans le temps, quand il y avait encore le Claridge, par exemple,
c'est un hôtel.
Les écrivains se retiraient là pour écrire. Colette allait régulièrement au Claridge, Giraudeau aussi.
Donc, ce n'était pas un hôtel, c'était un immeuble, c'est ça ?
C'était un hôtel, mais bon, les gens y prenaient. Vous savez, ils étaient heureux de quitter chez eux, d'être servis, de ne pas avoir. À n'avoir que le souci de leur œuvre.
Jean-Paul Caracalla, on vous a invité aujourd'hui parce que l'année 2016 qui s'annonce marque un anniversaire. Les Champs-Élysées sont sortis des marécages il y a 4 siècles. On l'évoquait avec Marc-Olivier Faugiel et Denis Tillinac tout à l'heure. Que se passe-t-il en 1616 ? Qui crée une première promenade à l'emplacement des futurs Champs-Élysées ?
Eh bien, c'est Louis XIV. Parce que Louis XIV désirait que ses courtisans puissent se rendre depuis le palais des Tuileries au château de Versailles. Donc, il demande à Le Nôtre de lui faire un chemin carrossable, ce que Le Nôtre a réalisé et qui, en fin de compte, sont les futurs Champs-Élysées.
Et avant Louis XIV, il y a Marie de Médicis qui crée une première promenade, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas exactement les Champs-Élysées ?
Non, c'est tout près des Tuileries. C'est une promenade. Il y a le cours La Reine aussi qui est en fin de compte parallèle un peu aux Champs-Élysées.
Mmh. Et cette allée des Champs-Élysées, elle va changer de nom, j'imagine, au fur et à mesure. Elle ne s'appellera peut-être pas comme ça au début, d'ailleurs.
Non, au début, ça s'appelait avenue de Saint-Germain, après avenue de Neuilly. Enfin, il y a eu différents noms. Et Champs-Élysées, bon, je trouve que c'est un nom superbe.
Qui lui donne ce nom et quand, Champs-Élysées ?
Alors, ça, le nom, je crois qu'il a été pris au moment de la Révolution française, en 1789. Et puis, les Champs-Élysées, c'est une sorte de...
De référence à la mythologie grecque, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. C'était une sorte de centre mythologique, en effet, mais qui était dans les enfers.
Ah, c'est amusant, ça.
Oui.
Donc, ça évoque plus les enfers que le paradis, les Champs-Élysées.
Oui.
Dans la mythologie grecque. Vous avez commencé à raconter la raison pour laquelle Louis XIV veut tracer cette route carrossable. Quel était son objectif, en fait, à l'époque ?
Son objectif, c'était que les courtisans viennent. Parce que Versailles, c'était loin. Ouais. Il avait peur d'être isolé et que les courtisans ne prennent pas le chemin de Versailles. Alors, bon, ce chemin carrossable permettait quand même aux voitures de passer.
Et il aura du succès, ce chemin carrossable ? Il va être emprunté par les courtisans ?
Oui, il va être emprunté. Ouais. D'ailleurs, on connaît, il y avait des centaines de courtisans à Versailles, mais il y en a la plupart venaient de Paris.
On va raconter évidemment toute l'histoire des Champs-Élysées avec vous, Jean-Paul Caracalla. Vous publiez un livre sur ce thème, Champs-Élysées, une histoire. C'est aux éditions La Petite Vermillon. Vous y avez des souvenirs personnels des Champs-Élysées quand vous étiez enfant ?
Oh oui, j'ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai connu les Champs-Élysées d'avant-guerre. C'est-à-dire que, vous savez, il y avait le côté ensoleillé et le côté à l'ombre. Le côté à l'ombre était totalement déserté. Il n'y avait d'ailleurs aucun magasin. Il y avait simplement en haut des Champs-Élysées le comité de tourisme de Paris. Mais tout le reste était sur le côté droit, en montant.
Il y avait un côté un peu bucolique à déambuler sur ces Champs-Élysées quand vous étiez
tout petit. Écoutez, il y avait des arbres, mais il n'y avait pas la double rangée d'arbres qu'a fait mettre Jacques Chirac.
Ah, c'est plus vert aujourd'hui finalement les Champs-Élysées qu'avant-guerre.
Ah oui, il y a plus d'arbres, oui.
Il n'y avait qu'un côté commerçant, donc il y avait un côté où ça bougeait, où ça vibrillonnait, et l'autre qui était calme, c'est ça?
L'autre, il n'y avait rien. C'était dans l'ombre et il n'y avait pas de magasin, alors il n'y avait aucune réserve.
Donc
alors
que
sur
ombre...
le côté droit, il y avait toutes les vitrines avec les superbes voitures. Vous savez, c'était la vitrine de l'automobile française.
On aura l'occasion évidemment d'en reparler tout à l'heure. On va continuer ce voyage dans le temps pour vous raconter l'histoire des Champs-Élysées et notamment l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de cette avenue, l'Arc de Triomphe. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, dans La Curiosité, on célèbre les 4 siècles de la naissance des Champs-Élysées sur RTL avec l'éditeur et écrivain Jean-Paul Caracalla.
C'est sur la musique de l'émission de Michel Drucker.
Champs-Élysées, évidemment. C'est en 1616 que Marie de Médicis, qui ne connaissait donc pas Michel Drucker, a fait aménager pour la première fois une promenade dans ce qui était jusqu'alors des marécages. Et notre invité très facétieux dit peut-être que Marie de Médicis connaissait Michel Drucker. Allez savoir, on lui demandera. Jean-Paul Caracalla, on a vu tout à l'heure que ce sont les révolutionnaires qui lui ont donné ce nom, qui ont donné ce nom à cette avenue et qui lui a offert son Arc de Triomphe.
C'est Napoléon ?
C'est Napoléon. Napoléon voulait glorifier la Grande Armée et pour cela, il voulait construire cet Arc de Triomphe qu'il a successivement voulu construire près de la place de la Nation. Et puis, en fin de compte, il a choisi la butte Chaillot. Et d'ailleurs, il a fallu faire d'énormes travaux parce que cette butte, elle était bombée. Il a fallu la raser. Et donc, c'est peut-être pour ça que quand vous passez rue Balzac, vous voyez que vous montez, que vous descendez. Parce que c'est tous les gravats de la place qu'on a déménagé, qu'on a mis là dans cette rue.
Ah
ce qui fait qu'elle a un énorme dos d'âne.
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Et c'est tous les gravats qui sont dessous.
Et c'est vrai que quand on prend les Champs-Élysées, c'est une avenue
ça grimpe.
Et ça grimpait plus que ça.
Les cyclistes du Tour de France pourraient vous en parler.
C'est vrai.
Oui.
Et donc, comme le demande Thomas, ça grimpait plus que ça, les Champs-Élysées, avant ?
Non, c'est-à-dire que c'est pas que ça grimpait plus que ça, mais arriver sur la butte, c'était comme une petite colline. Et là, il fallait pour mettre l'Arc de Triomphe, les fondations de l'Arc de Triomphe, et il a fallu évidemment raser tout ça.
Alors Napoléon fait construire cet Arc de Triomphe peu de temps après la victoire d'Austerlitz, et puis il abdique en avril 1814. Où en sont les travaux à ce moment-là ?
Oh ils sont pas très loin, pas très haut. Ils ont 6 mètres, je crois, de maximum de hauteur. Et alors, quand il s'est marié avec Marie-Louise et qu'elle est venue, il a fait monter en bois et avec des toiles l'Arc de Triomphe que nous voyons maintenant. Mais là, c'était un Arc de Triomphe totalement bidon. Et donc, drôle. Elle est passée avec Napoléon sous l'Arc de Triomphe.
Ouais. Et à la chute de Napoléon, qui décide finalement de continuer les travaux? Est-ce que le projet d'Arc de Triomphe a failli être abandonné?
Ah oui, absolument, absolument. Puis il est resté longtemps en chantier sans que personne ne s'en occupe. C'est, en fin de compte, si on réfléchit que c'est Louis-Philippe qui l'a quand même inauguré en 1836, ça fait quand même...
Donc plus de deux décennies après l'abdication de Napoléon.
Presque un siècle.
Que voit-on sur les piliers de l'Arc de Triomphe?
Alors on voit, il y a quatre bas-reliefs. Il y en a un des textes, il y en a un de Courtauld, il y en a un célèbre qui est celui de Rude, qu'on appelle la Marseillaise et qui est le départ des volontaires à la Révolution.
L'Arc de Triomphe, c'est un monument évidemment emblématique des Champs-Élysées. C'est aussi un grand lieu de symbole, la tombe du soldat inconnu d'abord. Est-ce qu'on sait qui y repose?
Alors évidemment... Si ça
on essaye à chaque fois.
Par définition, c'est parce que
on essaye à chaque fois.
Mais il y a eu plein de conjectures. Si on vous pose la question, c'est que beaucoup de gens ont cherché à savoir.
Oui, on cherchait à savoir. Mais bon, enfin, moi, je peux dire. D'après ce que je sais, c'est vraiment un soldat inconnu. Hein.
Qui représente.
Et ça,
qui
ne manquait pas en 1918 quand on a eu le projet de faire l'Arc de Triomphe.
C'est en 1918 quand est-ce qu'il a été inhumé le soldat?
Non, c'était en 1920 qu'on a mis le soldat inconnu.
Et donc il représente les millions de morts français de la Grande Guerre.
Oui. Des millions de soldats.
Les Champs-Élysées qui. Aimante en quelque sorte les Parisiens et les Français lors des grandes dates de notre histoire. On va raconter ensemble, Jean-Paul Caracalla, le 26 août 1944, c'est la libération de Paris.
Ah, oui.
Que dit De Gaulle quand il découvre la foule qui est rassemblée sur les champs ?
C'est la mer.
C'est la mer. C'est joli comme phrase.
C'est vrai que c'était une véritable marée humaine qui était là sur les Champs-Élysées.
On peut évaluer combien de personnes étaient sur les Champs-Élysées ce jour-là. C'est difficile.
Des milliers. Ouais. Parce que quand même, il a descendu de l'Arc de Triomphe, toutes les Champs-Élysées, pour se rendre après à l'Hôtel de Ville, où il a prononcé ses fameuses paroles sur Paris.
Mmh. Oui, c'était le 25 août, les paroles Paris libéré, Paris martyrisé. Le destin politique de Gaulle s'est également joué sur les Champs-Élysées. Deux décennies plus tard, qu'est-ce qui se passe à la fin de mai 68? C'est le lieu d'une grande manifestation?
Oui, il y a une gigantesque manifestation. Je me souviens très bien, parce que c'est anecdote personnelle, mais j'étais très ami avec Jacques Chardon, l'écrivain, et ce jour-là, Jacques Chardon est mort. Et sa veuve m'a appelé tout de suite. Et moi, on voulait m'entraîner, évidemment, dans le grand défilé. Mmh. Et en fin de compte, je suis parti à la frette voir Chardon. Et je n'ai pas défilé sur les Champs-Élysées ce jour-là.
Ce grand défilé, c'était un défilé de soutien au général de Gaulle, c'est ça?
Ah oui, c'était fantastique. Parce que moi, je connais des gens qui ne s'occupaient pas de politique, qui s'affichaient complètement de Gaulle et qui, ce soir-là, ont voulu manifester quand même leur présence. Mmh.
Dans cette grande allée et avenue populaire. Jean-Paul Caracalla, dans votre livre consacré à l'histoire des Champs-Élysées, publié à La Petite Vermillon, vous racontez que l'avenue, finalement, des Champs-Élysées a toujours été symbole de prestige.
Oui, c'est vrai, c'était un symbole de prestige. Il faut dire qu'au début, au début du XXe siècle, c'était quand même une vitrine extraordinaire. Les grandes marques de voitures superbes qui étaient exposées là, les Mercedes, les Delage, enfin, toutes ces marques qu'on ne connaît plus.
Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'autres avenues parisiennes pour concurrencer les Champs-Élysées?
Non. Non, il y a en ce qui concerne le commerce de luxe, des tas de nouveautés.
Oui, il y a l'avenue Montaigne,
l'avenue Georges V.
Tout près d'RTL d'ailleurs.
Mais ça, c'est ce qu'on appelait le triangle d'or. Champs-Élysées, avenue Montaigne et
avenue Georges V.
C'est peut-être sous le Second Empire que les Champs-Élysées deviennent le lieu où le tout Paris se presse. C'est ce que l'on vous raconte tout de suite dans La Curiosité.
Jusqu'à 22h.
Oui, une foule électrisée par cette qualification inespérée sur les trottoirs de la plus belle avenue du monde.
RTL.
8 passages des coureurs sur les Champs-Élysées, des milliers de spectateurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonne année. Ah bah non, c'est pas
c'est
tout de suite. Ah oui, d'accord, j'étais prise dans l'ambiance là.
On se calme. Les Champs-Élysées, en revanche, c'est le lieu de rendez-vous, évidemment, des Parisiens, des Français, des touristes pour le 31 décembre. C'est aussi une avenue mythique où 300 000 personnes se pressent chaque jour. Et les Champs-Élysées fêtent l'an prochain leurs 400 ans. On vous raconte l'histoire de cette avenue sur RTL avec l'écrivain et éditeur Jean-Paul Caracalla. On est sous le Second Empire. Jean-Paul Caracalla, on a parlé ici même, il y a quelques semaines, des travaux du baron Haussmann. Est-ce que ces travaux vont modifier l'architecture, le visage des Champs-Élysées?
C'est-à-dire que c'est les environs des Champs-Élysées qui évoluent beaucoup du temps du baron Haussmann. Mais sinon, les Champs-Élysées eux-mêmes, il n'y a rien fait, simplement.
Le rond-point des Champs-Élysées, peut-être, a été agrandi, aménagé par Haussmann?
Oui, j'ai connu le rond-point du temps où il y avait les oiseaux de Lalique avec les jets d'eau qui étaient très jolis avant-guerre. Mmh. Mais Haussmann n'a pas modifiés, mais tous les environs des Champs-Élysées ont été extrêmement modifiés. Et puis, il y a eu la disparition de tous les hôtels particuliers. Il y avait un nombre infini d'hôtels particuliers tout le long des Champs-Élysées. Il y en a un qui était au coin de la rue de Berry, qui était démonté pierre par pierre et remonté rue du Faubourg-Saint-Jacques, ouais. Et qui est la résidence maintenant des gens de lettres.
Pourquoi ils ont disparu, ces hôtels particuliers ?
Parce que pour des raisons
d'économie, d'entretien de l'hôtel particulier,
non ? Surtout les promoteurs immobiliers qui voulaient évidemment multiplier les
appartements. Il faut mieux faire un immeuble, etc. Mais il en reste quand même quelques-uns de ces hôtels particuliers ?
Non, il n'en reste pas. Il en reste un, qui est celui de la Païva.
Alors, c'est quoi l'histoire de cet hôtel particulier ? Racontez-nous.
C'est-à-dire que la Païva... Oui, d'ailleurs, je signale que quand... On a commencé à construire de la Païva, elle avait une telle réputation qu'on a dit « Oh ben, le trottoir est déjà fait
». Donc vous parlez d'une demi-mondaine,
oui.
qu'on surnommait la Païva, c'est ça ?
Oui.
Comment s'appelait-elle ?
Alors, elle était russe,
oui.
Et elle avait été renversée dans Moscou par un milliardaire français qui s'est amouraché d'elle et qui l'a amenée en France. Et après, elle a eu des tas d'exigences et des tas d'amants.
Donc c'est elle qui a quoi tenu, entretenu cet hôtel ?
Oui, c'est elle qui l'a fait construire, mais ouais. ça a duré presque 10 ans, la construction. Vous savez que c'est un raffinement extrême.
Ah, on peut le visiter, cet hôtel de la Païva ?
Oui,
de la
on peut le visiter. Enfin, maintenant, c'est le siège du Travelers, mais il y a des
Le Travelers, alors vous allez trop vite, c'est quoi le Travelers ? C'est le Travelers Club, c'est
le
ça ?
Le Travelers Club, oui.
Donc une société de quoi ? D'hommes, c'est ça ?
Oui, c'est une compagnie d'hommes.
Ouais.
Un club très fermé.
C'était très fermé parce que du temps où j'en faisais partir, en tout cas, les dames ne pouvaient pas entrer. Mais maintenant, ça a un peu changé.
Alors, puisque je suis une dame et que j'ai peut-être pas la chance d'avoir pu visiter ce lieu, faites-nous découvrir. Ça ressemblait à quoi cet hôtel de la Païva ? Vous dites que c'est très luxueux, somptueux ?
Maintenant, ça fait un peu kitsch quand on arrive, mais c'est les matières. Il y a un escalier en onyx, par exemple. Vous voyez, en marbre et onyx, c'est absolument...
Des grandes tentures, j'imagine, c'est ça, du velours.
Oui, et puis des tableaux, comme on en faisait au 19e siècle, des tableaux très chargés. Mais il y a aussi, à côté, il y a une petite cour où donc on pouvait aller fumer, puisqu'on ne fumait pas à l'intérieur. Et c'est un endroit très, très agréable.
Mais avec quel argent Esther Lachmann, donc, que l'on a surnommée la Païva, a-t-elle construit cet hôtel particulier ?
Avec l'argent de ses amants.
Qui la renversait, c'est ça ?
Elle a eu plusieurs amants. Il y en a qui se sont suicidés pour elle.
Parce qu'elle les a éconduits.
Parce qu'elle les a éconduits, oui. Parce qu'elle a changé d'amant.
Jean-Paul Caracalla, à la fin du 19e siècle, les Champs-Élysées ont-ils commencé à changer, c'est-à-dire au tout début du 20e, dans les années 1900 ? Est-ce qu'on commence... qu'est-ce qu'il y a sur les Champs-Élysées ? Il y a des magasins, il y a des théâtres. Ça ressemble à quoi, les Champs-Élysées, à cette époque ?
Il y avait un petit théâtre, mais bon, c'est qui ne comptait pas. Il y avait un grand couturier qui était célèbre, dont le nom m'échappe, mais en tout cas, qui était très célèbre à l'époque. Et puis, il y avait surtout les vitrines des voitures, des grandes marques de voitures. C'était vraiment la vitrine de l'automobile française.
À partir de quand les cafés ont commencé à ouvrir sur les Champs-Élysées ?
Les cafés datent d'avant-guerre. Bien d'avant-guerre, c'était dans les années 20. Le Colisée et le Berry. Le Colisée qui était tout rouge et le Berry qui était tout bleu. C'était deux superbes cafés.
Il fallait choisir son camp. Les Champs-Élysées, c'est aussi un haut lieu du commerce. Comment les marques de luxe que vous avez évoquées, Jean-Paul Caracalla, ont-elles pris possession de la plus belle avenue du monde ? Réponse dans un instant dans la curiosité.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, on descend la plus belle avenue du monde, n'hésitons pas, les Champs-Élysées à Paris. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Caracalla, écrivain, éditeur chez De Noël. Alors aujourd'hui, qui possède les Champs-Élysées ? Qui sont les principaux propriétaires de tous ces immeubles ?
C'est difficile à dire, mais il y a des fonds d'investissement qui ont investi là et qui ont des groupes d'immeubles. Mais bon, des particuliers, il y en a très peu.
Vous nous avez dit 10 000 euros le mètre carré. Oui. C'est plus dans ce sens-là, c'est quand même très cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des appartements à vendre ou à acheter ? à vendre ou à louer. Ouais, je vais y arriver. Je crois que je veux vraiment pas y habiter sur cette plus belle avenue
c'est
du monde.
C'est trop cher,
on peut pas, on est troublé.
Il y a en tout cas des gens qui habitent sur les Champs-Élysées, plusieurs propriétaires ou locataires, mais je ne crois pas que...
Qu'il y ait des transactions encore de particulier à particulier.
Oui. Je ne crois pas que si vous voulez un appartement sur les Champs-Élysées, qu'une agence immobilière vous trouvera ça rapidement.
Bon, je laisse tomber alors.
Oui, on va laisser tomber.
Je vais dormir RTL.
On va rester dans nos quartiers respectifs, on y est très bien. Vous avez souvent parlé depuis le début de cette interview, Jean-Paul Caracalla, des voitures de luxe, des marques de voitures mythiques qui étaient sur les Champs-Élysées. Alors, c'est vrai que c'est une avenue qui est liée à l'histoire de l'automobile. Ça commence en 1895. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Il y a le départ d'une grande course qui est donnée?
Oui, il y a une grande course que Paris-Bordeaux.
Oui.
Une course d'ailleurs très dangereuse, comme vous savez, les routes étaient mal pavées, il y avait des accidents avec les animaux des fermes qui se baladaient sur la route. Mmh. Enfin, il y avait non seulement des nids de poules, mais il y avait aussi des poules qui traversaient la route. Donc, c'était une course. Je crois que d'ailleurs, il y a eu des accidents graves.
Bien sûr, bien sûr.
Cette course.
Et donc, à partir de là, dans les décennies qui ont suivi, les Champs-Élysées, c'était quoi? Un lieu d'exposition pour
oui,
ces
marques?
Oui,
parce que vous savez qu'il y a eu, dès le début du siècle, il y a eu les Peugeot qui ont... Les Peugeot étaient très partagés, parce qu'il y avait... Là-bas, c'était le cycle. Et puis, il y a eu Armand Peugeot, un des frères, qui a décidé de construire une voiture. Il avait vu sur la Seine des bateaux avec des moteurs allemands qui allaient très vite. Et il a voulu faire une voiture avec ce genre de moteur à explosion. Et donc, il a fait cette voiture, mais il s'est fâché avec la famille, si bien qu'au fameux salon d'automobile du début du siècle, il y avait deux stands Peugeot au salon.
Les cycles d'un côté et les voitures de l'autre.
Et Armand de l'autre avec sa voiture.
Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que les commerces plus populaires se sont installés sur l'avenue des Champs-Élysées.
Oui, enfin populaires. On ne peut pas dire que ça soit tout de suite impopulaire. Il y avait des grandes marques de voitures.
Des enseignes de textile aussi.
Comment?
Des enseignes de textile.
Ah, alors, des enseignes de textile, il y a une chose très drôle, c'est qu'après la guerre de 14-18, il y a eu au rond-point des Champs-Élysées, là où était le Figaro, un énorme magasin qui s'appelait la toile d'avion. Et donc, on vendait des vêtements avec ce stock de toile qui avait servi à faire les ailes des avions de Guynemer et de Fonck, de tous les célèbres pilotes de l'armée. Et donc, moi, je me souviens très bien, j'ai connu ce magasin où on vendait donc des chemises, des vêtements, des costumes faits en toile d'avion.
Mais quand même, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60, il y a eu une petite, on va dire, baisse de niveau des enseignes qui s'installaient sur les Champs-Élysées. On a vu apparaître des fast-food, on a vu apparaître des enseignes un peu plus populaires.
Mais on en a vu même partir, puisque Vuitton s'était installé à Avenue Marceau, qui était parti des Champs-Élysées.
À partir de quand elles sont revenues, ces très grandes marques, ces marques de luxe?
À partir du moment où, après, l'air Pompidou, on a supprimé les contrats aller et que c'est redevenu que Jacques Chirac a fait planter la double rangée d'arbres et tout ça. Là, ça a beaucoup changé.
Parce qu'il y avait une contre-allée.
Oui, il y avait une contre-allée de chaque côté. Les voitures passaient là, les autocars et tout. Alors ça coupait le trottoir en quelque sorte.
Que là, on en a fait une grande balade, c'est ça, et ça a redonné un peu ses ors à l'avenue.
En plus, on a pavé ça de façon superbe avec un granit très 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 beau. Et bon, maintenant c'est vraiment un très beau lieu de promenade. S'il n'y avait pas évidemment toute cette espèce de foire quand même qui persiste avec des commerces qui ne sont pas des commerces de luxe.
Ah, ce qui est en ce moment, oui, c'est vrai qu'à l'occasion avec le marché de Noël, c'est pas ce qu'il y a de plus beau.
C'est tellement curieux de voir Vuitton d'un côté et puis un McDo en face.
Ah, oui. Vous nous l'aviez expliqué, Jean-Paul Caracalla, c'est vrai qu'il y a deux côtés dans l'avenue, l'un au soleil, l'un à l'ombre, et puis l'un très luxueux et l'autre plus frénétique, bordélique, c'est ça un peu? Les deux ambiances des Champs-Élysées.
C'est-à-dire que maintenant, tout ça est à peu près égal, mais il fut un temps, évidemment, où le côté ensoleillé était...
Donc il y a le côté droit, hein, c'est ça, quand on
c'est
monte
le côté
vers,
droit quand
vers
on
l'Arc
monte,
de Triomphe.
Oui. Alors ce côté-là était très, très, très fréquenté. Mais il y avait des formidables vitrines, et puis c'est là, vous savez, où il y a eu le, où Citroën a levé un jour le voile sur la nouvelle voiture extraordinaire qui était la DS. Et là, ça a été toute une histoire, parce que ça devait rester secret, et puis, en fin de compte, il y a eu des indiscrétions. Mais je me souviens encore de la surprise, quand, à une heure tapante, on a enlevé le voile de la voiture.
Et c'était sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées, et en face, il y a Peugeot.
Et on avait raconté ici même que la DS avait fait la une de Paris Match, c'est vous dire si c'était
une star.
Un événement.
Oui, non, parce qu'il y avait l'auto-journal. Il y avait l'auto-journal qui avait envoyé, qui avait soulevé un ingénieur et qui avait eu les plans avant et qui ont fait paraître quelque chose. Ça a été un scandale, il y a eu un procès avec Citroën.
Merci beaucoup Jean-Paul Caracalla d'être venu partager avec nous votre passion pour les Champs-Élysées. Champs-Élysées, une histoire, c'est publié en format poche aux éditions La Petite Vermillon. Merci beaucoup.
La table ronde, oui.
Merci infiniment.
Vous écoutez RTL.